Chapitre 22. De retour de la gare de péage, Nicolas entra dans le bureau d'un coup d'épaule contre la porte, un gobelet de café dans chaque main. Il les posa sur les bureaux de Lucie et de Jacques Levallois, qui étaient au téléphone. « T'as trouvé ce que je t'ai demandé dans ces relevés de compte ?» murmura-t-il à l'intention de ce dernier. Jacques lui répondit par l'affirmative d'un mouvement de menton, puis finit par raccrocher. « Deux choses auparavant. La première, Magnin vient d'arriver, il est furax de ta petite escapade nocturne. Tu devrais faire gaffe, tu sais bien qu'il attend la faille pour te sauter dessus. »«
Il ne mord pas bien fort. » »«
Deuxième chose ?»« C'était le poste de garde. Guy de Mortier, le balisticien, devait te talonner. Il a des infos pour nous, il monte. »
Lucie tendit l'oreille. Le balisticien. Pourquoi se déplaçait-il ? Qu'avait-il de si important à leur annoncer ?
Nicolas fixait la paperasse sur le bureau de son collègue. « Allez, dis-moi que t'as du concret. »«
Oui, j'ai. »
Main moite, Lucie se leva et vint à leur côté.
2 heures plus tôt, Jacques l'avait informé que Nicolas avait localisé le véhicule de Ramirez au péage de Seppo la nuit du meurtre du château d'eau en fouillant dans les clichés des caméras de surveillance. Tout s'accélérait, et à chaque nouvelle, à chaque information qui tombait, Lucie recevait un coup de poignard dans le ventre.
Jacques hocha la tête vers les relevés de compte.
« J'ai trouvé des mouvements bancaires intéressants le 31 août et le 1er septembre, » annonça Levallois. « Un règlement a bien été enregistré avec la carte bleue de Ramirez à 23h14 au péage de Seppo, montant de 6 euros. »
« Ça correspond à une entrée sur la 6 au niveau de Massy-Palaiseau.
On en a eu pour ce prix-là hier avec Franck.
Donc Ramirez venait de chez lui du côté de Longjumeau. Quoi d'autre ?»«
J'ai 3 autres mouvements remarquables. La nuit du 1er septembre, l'un à 3h21, société autoroutière montant de 31,40 €. Après vérification, il s'agit du péage de Chalon-sur-Saône. » Et le montant est celui prélevé pour un trajet Gurgis-Chalon.
Gurgi ? Où ça se trouve ?
Gurgi permet une entrée sur la 6 à environ 30 km au sud de Seppo. Après ça, un autre mouvement a été réalisé à 3h50 à une station essence de Louan, une petite ville située à une 40aine de bornes de Chalon.
Il montra une carte sur l'écran de son ordinateur. Rien autour de la ville de Louan ? Hormis des villages et l'autoroute A6 pas bien loin. Après son meurtre, Ramirez s'était enfoncé toujours plus vers le sud.
Et le dernier mouvement, c'est un paiement au péage de Massy, toujours le 1er septembre à 8h31, correspondant à un trajet retour depuis Chalon.
Nicolas moulina les informations sous son crâne et se dirigea vers la carte murale géante.
« Ok, ok. » « Alors, pour résumer ce que tu viens de me raconter, Ramirez part de sa maison le 31 août au soir, il entre sur la 6 au niveau de Massy, quitte l'autoroute à Seppo à 23h14 pour torturer et tuer sa victime dans le château d'eau. Ça veut dire qu'elle était déjà enfermée dans sa camionnette quand il a quitté son domicile. Il est malin parce que, après son crime, il ne remprunte pas le même péage. » Il fait quelques kilomètres dans la campagne et entre de nouveau sur la 6 à Gurgi, histoire de brouiller les pistes. Mais il ne retourne pas vers le nord, il prend la direction de Chalon, 200 kilomètres plus au sud. Là, il sort de l'autoroute, met de l'essence, reste 1 ou 2 heures dans le coin.
Nicolas pointa la portion de l'autoroute au niveau de Chalon, puis remonta avec son index en direction de la capitale.
Puis, il rentre chez lui par la 6, tranquillement le matin. Qu'est-ce qu'il est allé faire du côté de ce bled-là, Louan ?
Peut-être que la victime lui a lâché des infos suite aux tortures, suggéra Jacques.
J'en ai bien l'impression, oui. Et ça déclenche une action immédiate.
Nicolas aimait ce basculement dans l'enquête où les premières pièces du puzzle commençaient à s'imbriquer. Le balisticien Guy de Mortier frappa 2 fois et pénétra dans la pièce. Un type brillant, la 50aine, qui faisait partie des meubles du service balistique, capable de déterminer l'origine, la date de fabrication et la composition d'une arme en un clin d'œil. Il tenait des feuilles enroulées dans une main. Nicolas lui adressa un signe amical pour le faire patienter et termina son speech. « Si Ramirez a tué dans le château d'eau, qui a tué Ramirez ? Et comment cela a-t-il pu se faire avec la même arme ? Ça voudrait dire que Jack a utilisé le flingue de Ramirez pour le tuer. » Sur ces mots, il pria le balisticien de s'approcher.
« Je vois que vous parlez de la fameuse arme commune aux deux meurtres, et que ça vous pose un problème, ça ne m'étonne pas. Moi aussi j'ai un souci avec elle, ou plutôt avec les munitions. »
Lucie s'était rassise à sa place, derrière son ordinateur. Une sueur glacée lui coulait dans le dos.
« J'étudie depuis hier les deux rapports, celui que j'ai moi-même dressé à partir de la balle, de la douille, et des résidus de tir tamponnés par le médecin légiste, ainsi que celui établi par la gendarmerie de Dijon pour l'affaire du 31 août. Je me suis mis en rapport avec leur balisticien avant de venir ici vous en parler. On est tous les deux d'accord, il y a quelque chose qui cloche. Un vrai bug. »